CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30.
Bonjour, bonjour à tous, c'est Joanne pour le mag de CFM de midi, et ça dure jusqu'à la demi. Aujourd'hui, une émission particulière avec le fond et la forme et une réalisatrice venue en résidence, accueillie par cette association, vous savez, ceux qui organisent les hivernales du documentaire, qui ont accueilli en résidence trois réalisateurs. Je vous avais évoqué les deux premiers, Thomas Favergeon et Nicolas Guéraud. Aujourd'hui, c'est Sylvestre Menzer qui a trouvé un édifice remarquable. C'est l'ancienne école du hameau de Mazerac à Puy-la-Roc, et elle va à la fois raconter ce qui est devenu ce bâtiment, qui aujourd'hui est occupé par des résidents secondaires, qui viennent pour profiter pendant les vacances, et aussi des témoignages d'anciens qui ont fait classe dans cette école-là. Ce sera le sujet de son film, qui sera projeté pendant la première séance de la 10e édition des hivernales documentaires au mois de novembre. Elle va nous raconter son cheminement autour de cette idée et ce qu'elle est en train de tourner. L'association Le Fond et la Forme pour les hivernales documentaires 10e édition prévoit la projection de documentaires que des documentaristes viennent tourner sur le territoire. Jean-Michel Filiquier, bonne année à la 3e. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
La 3e, c'est Sylvestre Menzer. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous, déjà, on vous connaît parce que vous êtes venu projeter aux hivernales du documentaire à la limite extrême du pays Midi-Quercy. On crachait, on était déjà dans le Lot, si je ne m'abuse.
Ah oui, mais comme toutes les frontières, elles sont là pour être dépassées.
Voilà, on était à la Bastide de Peine pour cette projection. Il y a eu un entretien avec vous, Sylvestre Menzer.
C'était un film qui a été montré dans le cadre des hivernales du documentaire, après Thomas Favergeon et Nicolas Guéraud, qui sont deux réalisateurs qui sont également venus aux hivernales du documentaire. Voilà, donc les trois réalisateurs que nous accueillons dans le cadre de cette résidence sont trois réalisateurs qui sont venus présenter des films aux hivernales du documentaire.
Et alors pourquoi ? Parce que les autres n'ont pas voulu venir parce qu'ils ne savaient pas à quoi ça ressemblait
ou... Ben, peut-être, voilà. Ou peut-être parce qu'on est un peu exigeant aussi sur les choix, je ne sais pas.
Bon, Sylvestre, quand on reçoit un appel à projet avec les termes définis, la thématique, c'est...
C'est les mutations du monde rural. Enfin, c'est comme ça que ça m'a été présenté, effectivement. Ouais.
Et alors, les mutations du monde rural, bon sang, mais c'est bien sûr, j'ai une idée de film en tête, j'arrive.
Voilà, j'avais envie de revenir dans ce pays, de proposer quelque chose. Et les mutations du monde rural, quel sujet extraordinaire. Il suffit d'ouvrir les yeux, de regarder autour, on a plein d'idées. C'est ici qu'il faut le faire. Donc moi, tout de suite, ça m'a fait penser effectivement à l'histoire de ces maisons dans ces villages qui sont très imprégnés par le monde rural et par l'agriculture, et puis aujourd'hui qui sont occupés en grande partie et pas tout le temps dans l'année par des résidents secondaires qui viennent de villes et donc d'un milieu tout différent.
Et ça, déjà, ça va être possible de faire un film au printemps avec des gens qui ne sont pas forcément là, ou peut-être pendant les vacances, déjà, ils viennent en résidence secondaire ?
Alors, j'ai eu la chance de... En fait, j'ai choisi un lieu, une maison qui est occupée par monsieur et madame Desplechin, qui viennent régulièrement parce qu'étant retraités, et comme c'est une maison qu'ils adorent, ils y viennent un peu en dehors, en plus des vacances scolaires, et ils laissent fréquemment leur maison à leur famille pendant les vacances. Mais c'est une maison particulière, et c'est ça qui était intéressant pour moi, c'est que c'est une ancienne école qui a été occupée par une maîtresse qui avait une classe d'une quinzaine d'élèves. C'était donc une classe unique en plein milieu rural et qui a été vendue dans les années 50.
C'est pour, la suite de Être et Avoir, c'est ça ?
Alors, oui, enfin la suite, sauf que les histoires autour de l'école sont des histoires qu'on me raconte aujourd'hui, mais qui remontent à la fin des années 40. Donc c'est un être et avoir raconté au passé et avec des personnes âgées qui ont surtout gardé de forts souvenirs, mais qu'on ne voit pas agir au quotidien.
Alors c'est vrai que être ou ne plus être en quelque sorte.
Alors c'est vrai qu'on en a beaucoup des bâtiments qui étaient des bâtiments scolaires comme ça. Alors en général les municipalités en profitent pour faire des petites salles des fêtes, des salles de réunion quand ce sont des petites communes. où effectivement ça tombe dans le domaine privé, comme les anciens presbytères, et en général ce sont des belles bâtisses avec jardin attenant et tout ça. C'est l'histoire d'un bâtiment, son âme, la façon de l'habiter aujourd'hui dans une zone rurale, tout en n'étant pas un rural soi-même, c'est ça que vous allez pouvoir rendre ?
Oui, et c'est un très beau bâtiment, effectivement, parce que contrairement à la maison traditionnelle, à l'habitat paysan du coin, il y avait un côté assez luxueux dans ces bâtiments construits sous la Troisième République, qui était que, étant donné que c'était le lieu du savoir, de l'instruction, on y mettait de grandes ouvertures. Et donc, il y a 5 fenêtres immenses, 3 d'un côté, 2 de l'autre côté, avec 2 cours, une devant, une derrière. Et c'est une grande pièce principalement qui était la salle de classe avec beaucoup de lumière. Donc déjà le lieu est très beau.
Et le logement de fonction de l'instituteur au-dessus ?
Exactement, au-dessus. Ah, on pouvait imaginer la chambre avec la grande armoire, l'édredon rouge en plume. Et donc c'était une institutrice qui a toute une histoire aussi, parce qu'apparemment c'était une femme d'origine tzigane qui avait été recueillie par une famille du coin qui s'était occupée d'elle, qui lui avait donné l'instruction. Et donc elle était devenue institutrice, mais elle a laissé des souvenirs d'avoir été non seulement une très bonne institutrice, mais une femme impressionnante. Les gens d'ici disent elle était bronzée, hein, et puis elle avait des cheveux bien noirs, mais c'était une belle femme, et puis on n'en avait pas peur. Ce qui veut aussi tout dire sur sans doute le rapport à ce monde. Mais c'était une très bonne institutrice qui a laissé d'excellents souvenirs de...
Alors ça, comment vous le savez déjà ? Vous avez interrogé les anciens des alentours ?
Alors voilà, mon projet, c'est une sorte de rencontre entre le lieu d'aujourd'hui avec ses occupants actuels, qui sont, disons, des bourgeois du nord de la France, et les anciens élèves de cette école, qui sont autour de cette école. Donc, il y en a certains que j'ai rencontrés à Mouillac, ou près de Mazerac, près de Puy-la-Roque, enfin dans le coin, et qui racontent leur enfance, avec souvent un moment très fort pour eux, et qui était le quotidien, c'était le trajet de la maison, de la ferme, à l'école, avec parfois 2 heures de trajet à pied, donc 1 heure aller, 1 heure retour, en traversant la forêt, avec les inquiétudes que peuvent éprouver des enfants, des gamins, surtout en hiver, les pieds mouillés, etc. Donc, bon, non seulement ils racontent les trajets, mais ils racontent aussi tout le système éducatif ancien et qu'ils ont partagé avec tous les âges et tous les niveaux.
Mais alors, vous êtes arrivé déjà avec un projet super bien construit, il n'y avait plus qu'à prendre les images, si j'ose exprimer.
Ah ben, l'idée était assez forte, mais après, le plus qu'à, c'est énorme. Et c'est là où on se rend compte que il faut avancer, il faut trouver les bonnes personnes, il faut pas qu'on tourne en rond au bout d'un moment, et puis souvent les gens ont perdu aussi pas mal les souvenirs, donc voilà.
Bon, en même temps, les Desplechin, ils ne doivent pas être effrayés par une caméra.
Alors, les Desplechin, effectivement, c'est une famille de cinéastes. Ce matin, je les ai filmés avec Jean-Michel, et qui prenait le son. C'est merveilleux, parce que c'est des gens qui sont tellement accessibles, et qui jouent le jeu, et qui sont formidables. Quoi. C'est des acteurs nés.
Ils pourraient jouer dans les films de leur fils, oui.
Ah ouais, ils ont joué, je pense, d'ailleurs. Ouais. Robert Desplechin a joué dans un film qui s'appelle L'aimé de son fils Arnaud Desplechin, et c'est clair que... Et puis Mado, elle-même, est une grande conteuse qui transmet des histoires fantastiques, et on peut rester des heures à l'écouter, donc dans ces cas-là, on n'avance pas forcément pour le tournage, mais c'est un grand plaisir d'être avec eux.
On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir le thé dans les soukas à Man, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal, et on verra brûler bombé sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Yobat au cœur de Janeiro, on lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine, et on lèvera nos verres. Oh, quelle est belle notre chance, aux mille couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences, à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers, vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert.
Non, pas de drapeau, on fera des jours de fête. Autant qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain, mélangée de nos différences à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume.
CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30.
On est en compagnie de Sylvestre Menzer et de Jean-Michel Filiquier de l'association Le Fond et la Forme, qui accueille les documentaristes sur le territoire pour proposer des films à la 10e édition des hivernales documentaires qui va donc, comme son nom l'indique, avoir lieu cet hiver, mais un peu plus tôt, non ? L'ouverture, la projection de ces films.
Non, écoute, novembre.
Novembre.
Novembre, novembre, novembre. Ah, la date n'est pas calée encore. Il y a encore des petites choses à faire, mais on avance tous les jours. Bon, le lieu est encore incertain aussi. Enfin, tout ça est en cours de préparation.
Bon, Jean-Michel, avec Béatrice Amiel, quand vous recevez la proposition de Sylvestre Menzer, d'abord, ça ne vous étonne pas qu'elle ait réagi, mais le descriptif, quoi, elle a fait un synopsis, elle a raconté déjà que son idée, c'était l'histoire d'une maison, les souvenirs, tout ça. Vous le voyez, vous ?
Voilà, elle a écrit une note d'intention, en fait. Hein, et c'est sur cette base-là qu'on a retenu les candidatures. L'appel à projet, donc, il y a eu à peu près une vingtaine de réponses. Et on a retenu, au final, trois candidatures, trois réalisateurs. Alors, évidemment, le fait qu'il soit déjà venu aux hivernales du documentaire, bah, ça facilite un petit peu les choses, puisqu'on connaît leur travail. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la résidence, c'est un lieu d'expérimentation. Alors pour nous, c'est un petit peu un lieu de reconnaissance. Hein. L'impulsion a été donnée par la DRAC au départ, donc qui nous confie hein, en quelque sorte cette mission d'accueillir des résidents, donc des réalisateurs sur le territoire. L'objectif est à double sens. C'est à la fois de permettre aux réalisateurs d'essayer quelque chose, de leur ouvrir un champ expérimental, et puis c'est aussi de permettre la rencontre avec les habitants du territoire. Donc, il y a des moments de rencontre. Il y a eu, la semaine dernière, une projection du film de Nicolas Guéraud au lycée de Caussade. Il y aura d'autres événements qui vont être programmés comme ça. Et puis, la rencontre se fait au quotidien à travers, ben, par exemple, le travail de Sylvestre, qui est d'aller toquer aux portes et puis de rencontrer les anciens élèves de Puy-la-Roque, Mouillac et alentour. Nicolas Guéraud a fait un travail sur les personnes, sur les paysans de autour de 80 ans et plus, donc il a rencontré du monde à peu près sur toute la communauté de communes Saint-Antonin-Caylus. Voilà, donc la rencontre, elle se fait tous les jours, je dirais, ça fait partie, c'est l'essence même du documentaire.
Sylvestre, peut-être deux mots par rapport au précédent film qui avait valu une projection ici à la Bastide de Peine à l'occasion des hivernales du documentaire. Vous allez soulever moins de points cruciaux qui risquent d'agacer et tout ça avec ce film. Hein. Pour un panier de truffes, c'était le film polémique. Là, vous vous reposez ?
Oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours d'interroger le réel sous des côtés peut-être qui ne sont pas perceptibles. Là, je vois une maison qui est une résidence cossue, un lieu de vacances avec une piscine. C'est le loisir, c'est le plaisir. Et puis, je vais creuser un peu ce qu'il y a derrière. Et il n'y a jamais de mauvaise intention, c'est toujours un souci de mettre un peu d'épaisseur à cette histoire-là. Donc l'histoire de la truffe, elle mérite d'être connue et creusée, aussi bien que l'histoire d'une maison qui est un monument local pour dans l'intimité et la vie de beaucoup de personnes de ce coin.
En même temps, le problème que vous traitez, on pourrait le traiter aussi sous un angle analytique, statistique, c'est-à-dire combien de maisons sont vides dans les campagnes, est-ce que l'exode rural est fini, est-ce que le retour finalement d'une population, d'une démographie positive sur ces territoires a changé la sociologie de ceux qui s'installent, le prix du foncier a grimpé parce que toutes les vieilles fermes sont retapées avec des tennis, des piscines, et maintenant quand on essaie de les revendre, plus personne du pays ne peut les acheter. Enfin, cette analyse-là de notre territoire, vous devez connaître, je suppose, le contexte.
Oui, je pense que je vous laisserai le soin de faire cette étude parce que c'est passionnant, bon, elle mérite d'être faite, mais c'est pas forcément mon approche qui est plus une approche artistique.
Le documentariste n'est pas forcément un statisticien, je comprends.
Voilà, à la limite, ça serait peut-être quelque chose qui pourrait intéresser France 3 ou je ne sais pas.
Ou mais qui pourrait
en tout
intéresser.
Cas, ça s'appelle pas du, enfin c'est pas le documentaire comme on l'entend quoi.
Non, mais ça peut intéresser le débat qui suit une projection.
Oui, bien sûr. Oui,
le contexte.
Oui et non. C'est-à-dire, tu l'as déjà remarqué au niveau des hivernales du documentaire. Certes, on peut débattre autour des thèmes qui sont abordés, mais on essaye toujours, nous, en tant qu'animateur, en tant que porteur de projet, en tant que le fond et la forme, de remettre aussi la discussion sur le terrain du cinéma, hein, parce que c'est ce qui nous fait choisir Sylvestre plutôt que telle personne qui serait aussi capable de faire des films, mais comme tu viens de le décrire, c'est la maîtrise d'un langage audiovisuel. Et c'est un petit peu différent, ça passe par les émotions, ça passe par un regard, ça passe par une sensibilité.
Mon intention n'était pas de lui suggérer de faire un PowerPoint, hein, on est bien d'accord.
Non, mais c'est beaucoup d'interrogations, c'est peut-être là où je trouve que le fond et la forme font un travail unique et remarquable, c'est qu'ils sont ouverts aussi à ce doute dont on est porteur, qui fait que souvent je me perds dans ce projet, je ne sais pas où je vais, et puis à un moment il y a quelque chose qui apparaît, une sorte de lumière, ça semble, mais c'est toute une aventure un peu périlleuse auquel on a le droit, et même on est invité pour faire cette expérience, c'est ça qui est formidable.
Ouais, alors comment ça se passe? Vous partez filmer des plans dont vous savez où ils se mettent dans la construction du film, peu importe la météo et les raccords de ciel et tout ça, ou est-ce que vous tournez ce qui vous paraît intéressant et vous dites au montage, de toute façon, je referai le travail? C'est une vraie question.
Non, on a toujours une idée derrière la tête et si possible, au moment où on écrit le projet, on a une envie qu'on va explorer avec une certaine suite logique. Et donc, dans mon cas, l'idée, c'était de découvrir ce lieu tel qu'il est habité, avec la vie qu'il a aujourd'hui, les dépléchins, les enfants éventuellement, les gens qui occupent la maison de vacances, et de voir qu'au moment de leur départ, parce que les dépléchins rentrent chez eux, eh bien cette maison laisse entendre d'autres voix qui sont celles des anciens élèves. Alors ça peut paraître un peu comme des voix fantômes, sauf que c'est des gens bien réels qui existent aujourd'hui et qui sont juste des voix du souvenir. Donc ce lieu tellement imprégné d'un vécu qui a duré bien plus longtemps que son occupation actuelle a des choses à nous dire, et c'est là où... Donc mon idée, c'est ça. Après, comment je le mets en forme, c'est tout le travail que je fais en ce moment, quoi.
C'est là où on est dans du langage cinématographique, c'est-à-dire mettre en relation des objets et des voix. C'est tout. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Comment, quel genre d'image on pose là? Comment on articule ça avec les voix? Enfin, c'est là où il y a entre cet espace là que se construit le film et que se construit le travail de Sylvestre, quoi. Et c'est ce à quoi on est très attentif tous les jours.
Il y aura un entretien avec Sylvestre et ses intentions sur Place de la Halle.tv ?
Mais bien sûr, celui de Nicolas Guéraud a été mis en ligne aujourd'hui même. Donc là, pour l'instant, il y a les deux précédents, donc avec Thomas Favergeon et Nicolas Guéraud qui sont en ligne sur Place de la Halle.tv. Ouais.
C'est bien, ils font des documentaires avec des documentaristes qui font des documentaires.
Eh ben oui.
Pourquoi pas une émission de radio avec ça ?
Un feu de tout bois.
Donc on peut voir ça en novembre, mais on ne sait pas encore la date. Sylvestre, le dernier mot que vous allez vous dire en partant à Bézut, j'ai oublié de dire ça.
Ce que je voudrais dire, c'est qu'on n'a jamais... on ne soupçonne jamais assez le potentiel cinématographique et artistique et tout ce qu'on veut de tous ces lieux qui ont une histoire. Enfin, moi, ça me fascine quand je me promène dans les villages. Ici, on est à Quélus, on sent l'histoire dans les murs et on les touche, quoi. Et on rentre dans une de ces maisons avec des arcades magnifiques. Et puis là, on fait une émission de radio qui parle du contemporain. Enfin, je trouve ça génial.
Alors, comment ça se passe? C'est d'ailleurs quand on filme par exemple une résidence secondaire qui, et les gens qui s'en vont parce que les vacances sont finies et qu'ils repartent et puis que l'herbe pousse, qu'il n'y a personne pour entretenir et puis qu'à l'étape suivante c'est tout tendu, ça veut dire qu'ils sont revenus, les volets sont ouverts, ça les habitants doivent le remarquer, non ?
Les gens que j'ai rencontrés, je ne sais pas si ça répond à la question, mais qui étaient les anciens élèves de cette école sont tous extrêmement curieux de savoir à quoi ressemble l'école aujourd'hui et c'est formidable qu'ils aient encore cet imaginaire qui remonte à leur enfance, mais peut-être que ce serait pas une bonne surprise de découvrir les lieux d'aujourd'hui parce que la richesse elle vient de leurs souvenirs, donc effectivement ils voient que ce lieu est encore vivant, qu'il a pas été dénaturé, qu'on n'a pas changé les ouvertures, les portes, c'est très beau, c'est assez authentique.
Il y a plus donc, de tableau quand même.
Et
avec
alors,
de la craie.
Non, il n'y a plus de tableau, mais étonnamment, d'après les témoignages, il y avait très peu de choses dans la classe et c'était vraiment une période d'austérité. Et les gamelles qu'on amenait pour faire chauffer près du poêle, elles n'étaient pas bien garnies, comme on peut imaginer. Aujourd'hui, c'est des choses, j'ai des récits absolument incroyables. Par exemple, donc tous les jours, les enfants amenaient leurs gamelles avec la soupe et ils en avaient assez peut-être de transporter pendant les kilomètres. Donc, ils ont décidé de faire la soupe, de commencer l'école par l'épluchage des légumes pour faire la soupe qui mijotait pendant toute la matinée. Enfin, c'est des histoires comme ça, c'est vraiment merveilleux.
Ou bien la classe avec une bonne odeur, un bon fumet.
Ouais, ça c'est la classe.
Bon, je sais les difficultés que vous avez pour trouver des titres. Là, il y est déjà.
Alors, le titre, c'est Écho. Et donc, c'est l'écho de ce lieu et de ses anciens occupants, de ces personnages qui apparaissent à travers leur voix et dont on a le témoignage qui habille l'espace et qui résonne sur un endroit qui a complètement changé d'identité, mais qui reste pourtant imprégné de cette histoire.
Une idée de la durée ?
Il paraît que ça devrait faire autour de 15 minutes, on verra.
Voilà, ça c'est un petit peu l'objectif que l'on se fixe pour chacun des films, vu le temps imparti, c'est-à-dire deux périodes de 15 jours, avec certes plusieurs semaines entre les deux, où chaque réalisateur continue à mûrir son projet, voire à écrire, etc. Mais bon, voilà, les contraintes temporelles font que en un mois, pour arriver à quelque chose d'à peu près fini, on va dire, en tout cas une maquette qui soit fidèle à ce que sera le film après mixage, etc. Bon, on vise à un quart d'heure en 4 semaines, c'est très bien. C'est très bien sur ce terrain-là, c'est-à-dire sur ce terrain de l'expérimentation, puisque sont quand même des démarches particulières qui essayent des choses.
Comment on appelle ça ? Un court-métrage ? Un moyen-métrage ?
Oui, c'est du court. Court-métrage, c'est jusqu'à une heure. Hein. On passe au long-métrage à partir de 60 minutes.
Écho, le prochain documentaire court-métrage Sylvestre Mainzer, l'ancienne école de Mazerac habitée aujourd'hui par même pas des urbains d'ailleurs, ils ne se sont pas installés. Sur des résidences secondaires, les Desplechins, présenté par l'association Le Fond et la Forme, Béatrice Amiel et Jean-Michel Filquier qui étaient là, Sylvestre Mainzer, Jean-Michel, je vous remercie.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Le mag du Kerserouergue, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même punition. Ciao, ciao. Passez une bonne après-midi à l'écoute des programmes de CFM. Soleil.